Aujourd'hui, dans l'interview de l'Auberge Espagnole, nous recevons un invité de marque. Et quoi de mieux que deux intervieweurs pour interviewer cette personne. On y reviendra dans quelques secondes. Marco Sorghin, bonjour Marc.
Bonjour, bonjour.
Et cette personne dont on vous parle, c'est Yves Desrichard, que vous connaissez très bien sur les ondes de Divergence FM pour son émission 24 notes secondes, qui je crois est à la 450e, pas loin.
Et pas loin. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour, bonjour Marc.
Bonjour.
Alors aujourd'hui Yves, tu viens nous voir dans les studios de Divergence, pas pour une émission de 24 notes secondes,
mais eh bien
il
non.
Paraît que tu as sorti un livre que tu as devant toi, un gros livre, sur le compositeur Jerry Goldsmith.
Alors plus exactement, je n'ai pas sorti un livre, je compte sur les auditeurs de Divergence pour me permettre de sortir un livre. Ceux qui écoutent fidèlement 24 notes secondes savent peut-être que Jerry Goldsmith, effectivement, puisqu'il s'agit de lui, est un de mes compositeurs de chevet, un homme né en 1929, décédé en 2004 et qui aura composé plus de 150 ou 200 musiques de films, on ne sait pas trop, et du coup depuis quelques années, je dois dire, puisque la tâche était quand même assez conséquente, eh bien, j'ai rédigé un manuscrit sur, non pas la vie de Jerry, mais plutôt sur son œuvre, sur les films qu'il a accompagnés, et bien évidemment sur les musiques de ses films. Et nous avons lancé, avec quelques commanditaires parisiens, eh bien, un site de financement participatif pour aider à la publication sous forme de beaux volumes de cet ouvrage, quelque part au mois de mars 2024, si tout va bien.
Et vous retrouverez évidemment, chers auditeurs, le lien de ce crowdfunding sur le site de Divergence FM.
Mais nous pouvons déjà attester, on le voit devant
oui,
nous,
il est là.
Que le livre, lui, est écrit. Alors, il n'est pas encore sous forme de livre, mais il y a un épais manuscrit qui est devant Yves. Et donc, c'est écrit, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à publier.
Absolument, parce qu'on sait qu'il y a souvent des films qui ne se font que parce qu'on donne l'argent. Et après, on écrit le scénario. Ce n'est pas le cas, effectivement, de mon livre qui va s'appeler Jerry Goldsmith, un orfèvre à Hollywood. Je pense que les anglophones auront compris que c'était un petit jeu de mots, puisque Goldsmith en anglais ça veut dire orfèvre, et qu'effectivement Jerry a été pendant toute sa carrière des années 50 au début du 21e siècle, eh bien, ce qu'on appelle le compositeur des compositeurs, c'est-à-dire pas forcément le compositeur le plus connu, comme certains que j'adore, Hans Zimmer, John Barry, James Horner et bien évidemment John Williams, qui est un peu son compagnon de route. Mais par contre, Jerry Goldsmith, quand on écoute certains compositeurs, y compris maintenant, 20 ans après sa mort, se réclame de lui, de son originalité, de l'approche qu'il avait des films et des musiques qu'il composait. Il avait un style, je dirais, assez hétérogène. On l'a appelé le caméléon, c'est-à-dire qu'en fait, il collait au film lui-même. Autant on peut reconnaître, ils m'en excuseront, une musique de John Barry, de John Williams ou de Hans Zimmer presque instantanément. Autant pour Jerry Goldsmith, c'était beaucoup plus difficile.
À quel moment on choisit de s'attaquer à cet Everest d'écrire un livre sur Jerry Goldsmith ?
Alors, si j'étais un peu prétentieux ou naïf, je dirais que c'est à 17 ans, quand j'ai acheté mon premier disque de Jerry, qui était la bande originale de Star Trek, le film, un film de Robert Wise, sorti en 78-79. Bah, disons que c'était un compagnonnage donc, assez ancien, comme on peut le constater, puisque mes 17 ans sont bien loin. J'avais toujours plus ou moins ce projet en tête. Je collectais, comme beaucoup de fans, informations, etc., etc. Et puis je dirais qu'il y a 7 ou 8 ans, j'ai commencé à passer de la collecte à la rédaction, un peu façon patchwork, d'écrits sur chacun des films. Mmh. Et petit à petit, j'ai aggloméré le tout, rédigé la chose. J'avoue que ça s'est trouvé comme ça, que j'ai profité du premier confinement qui nous a tous et toutes condamnés à rester chez nous. Mais moi, je suis resté largement devant mon écran d'ordinateur et j'ai commencé à rédiger cet ouvrage qui m'a quand même pris plusieurs mois avant d'aboutir.
Alors, c'est un des compositeurs de musique de film, bien sûr, américain. Alors que la génération précédente, c'était beaucoup de compositeurs qui venaient d'autres pays, de pays d'Europe.
Hein, absolument.
Les Goldmark et tous ces gens-là venaient d'Europe. Bah lui, non, il est né... à Los Angeles. On peut pas être plus sur place qu'en naissant Los Angeles.
Alors, bon, Jerry avait des ascendances, je dirais, en Europe, comme beaucoup, évidemment, d'émigrés américains, par ses grands-parents. Mais effectivement, lui, il est né à Pasadena, en Californie. Donc, c'est un Californien pur jus. Bon, il n'a pas vraiment baigné dans le milieu du cinéma et autres quand il était jeune. C'est pas par hasard, mais disons que c'est pas forcément par choix qu'il est arrivé à la musique pour la radio puis pour la télévision, puis pour le cinéma. Mais effectivement, il n'a pas ces influences européennes que pouvaient avoir des compositeurs comme Rossa, Tiomkin, même Herrmann ou autres. Et donc, il a développé un style qui est un peu un agrégat de tout ça, mais aussi d'autres choses. Et tout au long de sa très longue carrière, il a vraiment essayé tous les genres et tous les styles de musique et d'instruments. C'est un homme qu'on apprécie beaucoup puisqu'il a utilisé dans ses musiques, souvent j'en parle dans mon ouvrage, des instruments que personne d'autre n'aura utilisés pour des musiques de films.
Marc ? Oui, alors pour nos auditeurs, il y a les passionnés de 24 notes secondes, ça va, ils ont tout de suite plein de titres de films. Pour d'autres, ce n'est pas si évident. On n'a pas forcément des titres de films auxquels associer la musique de Jerry Goldsmith. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Je vois qu'il y avait La planète des singes, notamment. Mais il y en a beaucoup d'autres, certainement. Dans
Absolument.
Les films connus, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont ce qu'on appelle des séries B ou des choses comme ça.
Hélas,
qui n'étaient pas en haut de l'affiche.
Tu vois.
Mais il y en a quelques-uns quand même qui étaient l'affiche très haut.
Les fidèles de 24 notes auront conscience de la notion de film de garçon, c'est-à-dire de film d'action. Et Jerry aura beaucoup composé pour le cinéma d'action dans les années 80-90. C'est à lui qu'on doit les partitions des trois premiers Rambo, par exemple. J'ai évoqué Star Trek. Il y a eu toute une série de films. Il en a composé un certain nombre. Tu as évoqué, Marc, et tu as bien fait, la partition de La planète des singes, qui est un film de Franklin Schaffner de 1968 que... Personnellement, je dois l'avouer, je considère comme la meilleure partition de tous les temps, en fait. C'est une musique dodécaphonique pour ceux et celles qui sont un peu musicologues. C'est-à-dire que Jerry utilise des procédés d'une musique, pas contemporaine, mais des années 20 ou 30, presque expérimentale, pour les appliquer à un genre qui n'est pas du tout expérimental, qui est le film de science-fiction mainstream, adapté de Pierre Boulle. Et du coup, on a une partition qui surgit de nulle part et qui, après, n'a jamais été égalée, même si on l'a beaucoup évoqué. Par ailleurs, on peut citer toujours avec Franklin Schaffner Patton, qui est un film consacré au fameux général américain, et d'autres partenariats fructueux, par exemple avec Joe Dante, puisque Jerry aura beaucoup composé pour Joe Dante. C'est lui auquel on doit notamment la musique des Gremlins, qui est quand même assez jouissive, ou de l'aventure intérieure, d'explorer. Les deux disaient qu'ils s'étaient trouvés, en fait, même si Jerry était beaucoup plus âgé que Joe Dante, qui était un cinéaste américain du Nouvel Hollywood, alors que Jerry avait débuté dans les années 60. Mais ils s'étaient trouvés, ils ont collaboré tous les deux fructueusement. On peut aussi citer, parce qu'elle est quand même relativement connue, la musique du Chinatown de Roman Polanski. On peut citer, je ne sais pas moi, La Maison Russie. On peut citer beaucoup de titres, en fait. Mais comme tu l'as dit, Marc, les handicaps de Jerry Goldsmith, c'est qu'il composait souvent des magnifiques partitions, mais pour des films qu'il était beaucoup moins et qui relevaient ou de la série B, voire qui étaient carrément ratés, des suites plus ou moins décevantes, tout ce genre de choses. J'oubliais, et alors là vraiment j'aurais été impardonnable de le faire, que Jerry n'a eu qu'un seul Oscar dans toute sa carrière. Il a été nominé une douzaine de fois, mais il n'a eu qu'un seul Oscar en 1977 pour la partition d'un film d'horreur qui s'appelle La Malédiction en français, The Omen en anglais, pardonnez-moi, un film de Richard Donner qui était consacré à l'Antéchrist.
Allez, je vous propose qu'on écoute ce que ça donne, Jerry Goldsmith. Tu es venu avec deux titres, on va en écouter un premier. Tu es venu avec quoi, Yves ?
Alors, je suis venu avec la bande originale de Patton qu'on vient d'évoquer. Alors, si je peux dire deux mots, parce que Jerry Goldsmith était très peu disert sur ses musiques de films. L'homme était vraiment un compositeur. Il n'aimait pas du tout le public. Enfin, disons qu'il faisait des concerts, mais il n'aimait pas du tout les fans, ce genre de choses. Il avait horreur de signer des pochettes de CD ou ce genre de choses. Et quand on lui demandait, mais dans ce film-là, votre musique, vous avez voulu dire quoi ? Il disait, non, mais moi, je l'ai eu dans la tête et puis je l'ai composé. Par exemple, petit insert dans la musique de Chinatown, il y a quatre pianos. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi vous avez mis quatre pianos ? Ah ben je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ce n'est pas le cas de la musique de Patton, vous allez pouvoir l'entendre dans le générique qui est vraiment un condensé de l'art de Jerry. On retrouve une marche militaire qui est le symbole de Patton en tant que militaire. On retrouve de la musique d'orgue à la fin, puisque Patton était quelqu'un de très religieux. Et puis on retrouve un effet que Goldsmith n'était pas le premier à utiliser, mais qui après a connu un succès considérable, qui est l'écho plexe. Vous allez le reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a un son de trompette qui est répété en écho. Alors tout ça était avant le numérique, donc ça se faisait avec des bandes magnétiques. Et cet effet d'écho, consciemment, Jerry l'a pensé pour illustrer le fait que Patton se nourrissait des récits des batailles passées pour élaborer les tactiques des batailles qu'il avait à mener, et notamment des batailles de l'Empire romain. Donc on va écouter ce petit morceau, c'est très court, mais pour moi c'est la quintessence de l'art de Jerry.
Et on se retrouve juste après.